Cap-Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap-Cap avec Frédéric Almendros. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors, il est procureur de la République, magistrat, me semble-t-il, je ne connais pas bien, mais un peu atypique sur bien des aspects, comme vous l'allez voir, et puis auteur d'un livre écrit à deux mains et deux pattes avec un labrador nommé LOL, le premier chien d'assistance judiciaire. Bonjour Frédéric Almendros.
Bonjour.
Et merci de nous recevoir chez vous. Alors, on n'a pas les masques, mais on est à l'extérieur, donc tout va bien. Nous respectons à peu près les règles qui nous sont imposés. Donc vous êtes, je l'ai dit, magistrat, vous avez bien sûr fait des études de droit, des E, droit pénal, sciences criminelles, et puis l'ENM en 1996, et ensuite un parcours classique de magistrat, beaucoup plus porté sur le parquet que le siège d'ailleurs.
Oui, beaucoup plus porté sur le parquet que le siège, d'abord par choix, par détermination initiale, et puis ensuite parce que j'y ai trouvé un moyen de m'épanouir. Le parquet, c'est être au cœur de la société, c'est être au cœur de l'action, c'est aussi malheureusement voir des choses parfois difficiles, entendre des récits difficiles, mais c'est pétrir l'humain en permanence.
C'était le choix que vous aviez fait dès l'entrée à l'école ou pas? C'est venu par l'opportunité?
Alors, c'est venu au fil des semaines et des mois, puisque quand j'ai commencé l'école de la magistrature, on a été un petit peu sensibilisé à tous les métiers de ce métier, puisque c'est un métier qui regroupe plusieurs métiers. Et c'est vrai que rapidement, avec le goût que j'avais pour le droit pénal, j'ai axé mes choix vers le parquet, voire vers l'instruction. Et puis, au final, j'ai choisi d'être substitut à Dole dans le Jura.
Alors certains font des métiers parce que l'opportunité, la facilité ou toute autre chose les y ont conduits. Le NM, c'est quand même pas pareil, c'est un concours extrêmement rude. Donc vous avez fait ce choix. Pourquoi le choix d'être magistrat?
Parce qu'à l'époque, j'hésitais entre la magistrature et le barreau. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'être reçu à l'école de la magistrature la première fois que je l'ai passé. Donc... voilà.
Sinon, vous auriez pu avoir une autre robe.
La même sans les cimards,
sans
peut-être.
Les cimards, oui. Sans le lapin sur l'épaule. Vous regrettez?
Pas du tout. Pas du tout, mais je ne m'interdis toujours pas de pouvoir un jour peut-être exercer le métier d'avocat, puisque nous avons la possibilité, avec des passerelles dans ce fabuleux corps de la magistrature, d'une part de passer du parquet au siège et du siège au parquet, mais également de pouvoir demander parfois des disponibilités. Et pourquoi pas, l'idée m'a toujours tenté, et je ne sais pas si je le réaliserai un jour, mais en tout cas, elle est toujours dans un petit coin de mon esprit, de passer au barreau.
Le siège, c'était la cour d'appel de Toulouse, vous étiez conseiller, c'est une expérience intéressante.
J'ai été conseiller effectivement pendant 2 ans à Toulouse, à la chambre des appels correctionnels, puis à la chambre de l'instruction, en faisant un peu de chambre d'application des peines, enfin toute la cuisine interne. Et c'est effectivement une autre expérience, c'est-à-dire que d'abord vous êtes à la cour d'appel, donc une autre dimension de juridiction qu'un tribunal judiciaire. Et puis surtout, quand vous êtes au siège à la cour d'appel, vous avez la décision finale qui vous appartient, la plupart du temps en collégialité bien sûr, surtout à l'époque, il n'y avait pas encore le juge unique comme aujourd'hui. Et donc une responsabilité supplémentaire dans le choix des mots, dans la motivation, parce que si la décision ne convient pas, elle part à la cour de cassation. Donc il faut choisir ses mots, il faut choisir les textes sur lesquels on va s'appuyer pour confirmer ou ne pas confirmer une décision de première instance. Et c'est notre challenge.
Alors cette justice que vous servez, est-ce que, à votre avis, elle fonctionne de façon satisfaisante? Alors je vous donner quand même quelques chiffres. En France, il faut 309 jours pour avoir un jugement de première instance. Et à titre de comparaison, c'est 19 jours au Danemark, 91 jours aux Pays-Bas, 133 en Suède. Et quand vous êtes à Paris, c'est entre 18 et 24 mois pour avoir un appel, un jugement d'appel. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que la justice...
Vous savez, Jean Gabin disait, dans un film qui s'appelle Le Président, je crois,
oui,
le langage des chiffres a ceci de commun avec le langage des fleurs, on lui fait dire ce qu'on veut.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas la vérité? Est-ce que le grand problème aujourd'hui de la justice, ce n'est pas les délais?
La Cour de cassation est située quai de l'Horloge à Paris. Ça peut être une symbolique autre que la simple géographie. Ensuite, il faut distinguer le temps judiciaire des autres temps, le temps de l'enquête, le temps médiatique. Le temps judiciaire est un temps particulier parce qu'il faut se donner justement les moyens de construire une procédure, que ce soit pénale ou civile. Il faut se donner le temps de construire une procédure de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire, j'allais presque dire, de la moins pire façon qui soit, notamment au pénal. Il faut être sûr de ce qu'on fait. Il ne faut pas renvoyer des gens au bénéfice du doute. Le doute doit profiter à l'accusé, à tous les stades de la procédure. C'est pour ça que je dis toujours que le procureur de la République, le magistrat du parquet, pour être synthétique, le magistrat du parquet, c'est le premier juge de la procédure. C'est-à-dire que c'est lui qui va d'abord vérifier l'égalité, la procédure, au sens juridique du terme, si la procédure a été respectée. Et ensuite, c'est lui qui va orienter le dossier. Et il ne faut renvoyer une personne devant un tribunal que lorsque soi-même on est convaincu déjà de la culpabilité. Alors, ça n'a rien à voir avec la présomption d'innocence, mais ça veut dire qu'on a déjà suffisamment d'éléments. Vous savez, la balance de la justice, c'est deux plateaux. Je le dis souvent aux assises. Moi, à chaque fois que je prépare mes réquisitions aux assises, je mets sur chacun des plateaux les éléments à charge et les éléments à décharge. Et je vois à la fin de l'audience, à la fin vraiment de l'audience, souvent c'est la dernière nuit avant les réquisitions, quel est le plateau des deux qui pèse le plus dans la balance. C'est ça le boulot du parquetier, c'est de peser en permanence. Et donc, ça prend du temps, forcément. Ça prend plus de temps de rédiger un jugement, de rédiger un appel, comme je vous le disais il y a quelques instants, à la cour d'appel, les décisions qui sont contestées vont devant la cour de cassation. Donc on examine le droit, on examine si le droit a été respecté. Ça prend plus de temps de rédiger ce genre de décision que de simplement signer un document en bas d'une page sans le relire.
C'est une question de temps, mais est-ce que vous n'êtes pas... Alors, bon, vous êtes procureur de la République dans le Lot, c'est peut-être un département, vous nous le direz tout à l'heure, plus calme, plus tranquille, quoique. Mais dans les grandes villes, est-ce que les parquetiers, le procureur de la République, ont le temps de consacrer beaucoup d'heures sur un dossier? Est-ce qu'on ne fait pas un peu d'abattage, et ce n'est pas une critique, hein, mais...
Je ne répondrai pas à la place des collègues, mais en ce qui concerne le parquet de Cahors et les parquets de moyenne importance dans lesquels j'ai exercé, qui étaient des parquets de moyenne importance en termes de ce qu'on appelle la clé, hein, la circulaire de localisation des emplois, mais en termes d'importance judiciaire qui était assez musclée, je parle de Saint-Denis de la Réunion et de Pointe-à-Pitre notamment, nous prenions le temps pour chaque dossier. Alors bien sûr, il y a des dossiers qui demandent moins de temps par définition que d'autres. Mais tous les dossiers qui sont déjà qualifiables ou qualifiés de manière criminelle, les dossiers délictuels qui sont complexes, c'est-à-dire les dossiers d'agression sexuelle, les dossiers de violence avec plusieurs personnes qui sont impliquées, ces dossiers-là, on prend bien entendu le temps de les étudier, de les constituer, parce que c'est ça aussi le temps de l'enquête, c'est de constituer un dossier, c'est d'établir ce qu'on appelle le faisceau d'indices graves et concordants qui va permettre ou non de renvoyer une personne devant un tribunal, devant une juridiction de jugement, puisque quand on saisit le juge, c'est pour qu'il juge. Moi, j'ai dit toujours, il faut laisser au juge sa place de juge, parce que si je saisis le juge, c'est pour qu'il juge sur des éléments de droit, sur des éléments de fait et sur, en fait, les éléments que je lui aurais apportés. Donc, bien sûr, tout ça, ça prend du temps. Mais on prend, encore une fois, je ne m'engage pas pour les autres parquetiers. Je crois que l'éthique du magistrat du parquet, c'est de prendre le temps de constituer un dossier pour emmener au tribunal un dossier le plus lisible possible. Ensuite, ça n'empêche pas aussi que le juge, ou les juges, s'il s'agit d'une audience collégiale, aient un autre regard sur le dossier, et que par exemple, vous soyez convaincu que la personne doit être déclarée coupable, et que le tribunal la relaxe ou la quitte aux assises, que la cour d'assises la quitte. Ça arrive aussi. Mais ça, je veux dire, ça fait partie de la richesse de la justice française, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs regards qui s'entrecroisent, qui sont parfois différents, qui sont parfois tournés dans la même direction. Tout ça, ça prend un certain temps, c'est le temps judiciaire.
Est-ce que ce temps-là n'est pas parfois beaucoup trop long? Est-ce que l'aspect pédagogique de la peine peut toujours jouer 5 ans, 10 ans après? On voit des affaires qui viennent devant le juge des années après. Est-ce que ça a véritablement un impact?
Le but de notre travail, c'est de faire en sorte que les faits soient jugés le plus près possible de leur commission. Malheureusement, il y a parfois des révélations qui sont très tardives. On a vu récemment augmenter les délais de prescription des peines, les délais de prescription de l'action publique, qui permettent à des gens maintenant de déposer plainte bien des années après qu'ils aient subi les faits, en tout cas qu'ils disent avoir subi. Tout ça, c'est forcément, à mon sens, préjudiciable quelque part au sens de la peine auquel vous faisiez référence, parce que je crois que plus tôt la peine est prononcée par rapport au moment de la commission des faits, plus ça sera efficace. Encore que ce n'est pas forcément vrai pour tous les dossiers. Parce qu'il y a aussi un paramètre qu'il faut prendre en considération, c'est que quand vous requérez une peine ou quand le tribunal prononce une peine, il s'adapte aussi à la personnalité de la personne qui est mise en cause au jour J. C'est-à-dire que si vous prononcez une condamnation en 2021 pour des faits qui ont été commis en 2015, la personne a évolué. Entre-temps, entre le moment des faits et le jour de la décision, elle aura peut-être complètement changé de braquet, complètement changé de vie, elle se sera mariée, elle aura eu des enfants, elle aura trouvé un emploi, alors qu'elle était peut-être en déshérence au moment où elle a commis les faits.
Ça veut dire que la rédemption va être prise en compte. La victime va avoir un peu de mal à apprécier peut-être qu'on prenne en compte une potentielle évolution du criminel.
C'est pas une question de rédemption, on ne fait pas du tout de la liturgie. C'est simplement tenir compte de la personnalité de celui qui est jugé et tenir compte de cette personnalité telle qu'elle a évolué depuis le moment des faits qui lui sont reprochés, puisque nous parlions de cet écart entre le moment des faits et le moment du jugement, il peut aussi avoir des effets révélateurs d'un changement de personnalité et donc d'une amélioration de la personne. Et ça, forcément, le tribunal doit en tenir compte aussi. Alors ça n'a rien à voir avec la victime, en fait. C'est complètement distinct du préjudice subi par une victime. Là, on parle vraiment de la peine. La peine, elle doit être axé sur la gravité des faits, sur le retentissement sur la victime et sur la société, mais elle doit être aussi axée sur la personne elle-même qui va devoir la purger et sur sa personnalité. Et cette personnalité, à l'instant T, elle doit être prise en compte, bien sûr.
Est-ce que cette lenteur que j'évoquais, que beaucoup reprochent à la justice, on a vu d'ailleurs le ministre Dupond-Moretti dire qu'il allait embaucher un millier de personnes pour venir en aide aux greffiers, pour venir en aide aux magistrats. Est-ce que ça ne vient pas aussi du fait que la justice, elle n'a pas d'argent, elle se paupérise aujourd'hui? Alors, on va donner quelques chiffres, c'est ce que vous m'avez répondu tout à l'heure, mais la dépense par habitant en France pour la justice est de 72 euros. Au Royaume-Uni, c'est 155 euros, 146 en Allemagne. Nous avons 10 juges pour 100 000 habitants. En Allemagne, il y en a 24 pour 100 000 et 21 globalement en moyenne dans l'Union européenne. Donc ça veut bien dire que la lenteur, elle peut avoir ses raisons, et des raisons nobles comme vous l'avez dit, mais pas que. Il peut y avoir d'autres causes parce qu'on n'a pas les moyens, on ne donne pas plutôt les moyens à la justice, qui est quand même une administration régalienne et qui est un peu garante de notre démocratie. C'est un peu gênant.
C'est vous qui le dites.
C'est les chiffres. Alors je sais que les chiffres, les chiffres ne mentent pas. On sait que notre justice se paupérise aujourd'hui. Je pense qu'on est un certain nombre de gens à le regretter. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de magistrats qui le regrettent aussi, qui aimeraient avoir plus de moyens, plus de personnel. Si vous prenez un parquet comme Toulouse, je crois qu'il y a 24 parquetiers. Ils sont plus nombreux à Bordeaux, alors que Bordeaux est une ville qui est un peu plus petite et moins agitée sur le plan criminel.
Alors ça, premièrement, c'est vous qui le dites. Moi, j'ai pas les chiffres, j'ai pas les statistiques entre Bordeaux et Toulouse, et je me garderai bien de faire des comparaisons. Simplement,
Monsieur Couillot qui me l'avait dit, vous connaissez Pierre Couillot.
Certainement que s'il vous l'a dit, ça devait avoir un fond de vérité. Mais par exemple, à Bordeaux, vous avez un pôle, ce qu'on appelle la JIRS, la juridiction interrégionale spécialisée, qui est extrêmement chronophage, qui gère des dossiers difficiles, des dossiers techniques. Je suis pas l'avocat de Bordeaux ou de Toulouse, hein, mais simplement, j'essaie de vous expliquer que les moyens de la justice sont répartis en fonction des tailles de juridiction, mais également de l'activité qui n'est pas forcément en lien avec la taille des juridictions. Je vous parlais tout à l'heure de juridictions qui étaient de taille dite moyenne, ce qu'on appelle des groupes 3 dans notre jargon judiciaire, comme Saint-Denis ou Pointe-à-Pitre, qui sont pourtant des juridictions où la délinquance et la criminalité, je parle plus de délinquance, je parle de criminalité, sont très fortes. Donc on ne peut pas faire un parallèle stricto sensu entre la taille d'un ressort, on va dire, d'une ville, voire d'un département, et les moyens qui sont attribués à la justice dans le dit département. C'est un peu réducteur.
La justice et la politique, dès qu'il y a une décision, dès qu'un politique est jugé, tout le monde effectivement se rue sur la justice. Il y a ceux qui trouvent qu'elle a été trop clémente, ceux qui trouvent qu'elle a été trop dure. C'est André Frossard qui disait « les procès finissent toujours par celui de la justice ». En matière politique, c'est souvent le cas.
Je ne parle pas des dossiers que je ne connais pas. Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas.
Oh, on a vu M. Sarkozy jugé dernièrement.
Bon, je ne connais pas le dossier.
Oui, on ne connaît pas le dossier, donc on ne va pas se prononcer sur le dossier. Mais c'est vrai que chaque fois, ça provoque des appréciations qui ne sont pas toujours flatteuses pour la justice.
Mais vous savez, M. Lavergne, la difficulté, notamment dans ce pays, mais pas seulement dans ce pays, c'est une difficulté qui est aujourd'hui mondiale, c'est la communication. On communique beaucoup plus qu'on ne réfléchit parfois, je dis parfois, et on communique beaucoup sur des choses dont on ignore les tenants et les aboutissants. Et la justice fait partie de ces grandes ignorances qui permettent aux gens parfois, encore une fois je dis parfois, hein, ça m'évite de prendre un avocat, mais non, trêve de plaisanterie, la justice est parfois vilipendée, critiquée, tout simplement commentée par des gens qui ne connaissent pas les dossiers. Et ça, c'est terrible.
Donc, vous savez, souvent, personne ne peut les connaître.
Souvent, mais non, mais ça s'appelle le secret de l'institution judiciaire. Souvent, on me dit, qu'est-ce que vous pensez de Doutreau ? J'ai dit, mais j'en pense rien parce que je ne connais pas le dossier. Je n'en pense absolument rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi telle juridiction a jugé de telle façon ou telle juridiction a jugé de telle autre. Je sais, à titre d'expérience personnelle, que bien souvent, mes propres propos tenus à l'audience sont déformés quand ils sont repris par certains organes de presse. Donc je me garderai bien d'avoir le moindre avis sur les affaires politiques ou politico-financières ou même criminelles, que ce soit les affaires de serial killer ou les affaires du quotidien. Tant que je n'ai pas un dossier, je me garderai bien d'avoir un avis sur ce qui a été décidé, tant par le parquet que s'il est saisi par le siège.
Alors, on est dans le Lot, beau département, un trou qui a l'air serein, qui a l'air très calme. Est-ce que c'est véritablement la face judiciaire qu'il donne ? Est-ce qu'il y a une autre vision du Lot à avoir ?
Malheureusement, on peut toujours trouver un caillou dans sa chaussure. Dans le département du Lot, il y a des infractions qui sont commises, comme dans tous les autres départements. Mais de manière générale, et là je me base sur ma propre expérience, puisque ça fait maintenant 3 ans et demi, presque 4 ans que je suis procureur à Cahors, c'est un département qui est tranquille, qui est peu criminogène. Il y a de la délinquance, ce que l'on appelle de voie publique, il y a de la délinquance de trafic de stupéfiants, à petite voire moyenne échelle, il y a effectivement aussi quelques agressions, des affaires de nature sexuelle, mais très peu d'affaires criminelles au final. Je parle de crimes de sang, extrêmement peu de crimes de sang, par rapport à d'autres juridictions dans lesquelles j'ai pu exercer auparavant. Le département du Lot, je crois qu'on peut le dire, est quand même un département très tranquille. À titre d'exemple, lors du premier confinement, il y a eu très peu d'infractions au confinement, d'infractions délictuelles au confinement. Les gens sont respectueux généralement de la loi dans le Lot.
C'est rassurant.
C'est mon ressenti.
Est-ce que le procureur s'ennuie quand les gens sont respectueux de la loi ?
Alors non, parce qu'il y en a quand même suffisamment pour m'occuper.
Bon, ça va, on est rassuré. On fait une pause musicale, la première et la seule d'ailleurs, parce que nous avons beaucoup de sujets à aborder. C'est vous qui l'avez choisi. Alors, annoncez-la, qu'est-ce que c'est que vous avez choisi ? Vous m'avez dit sans hésiter, je la choisis.
Sans
donc,
hésiter.
Il a une direction particulière, c'est Frank Sinatra.
Alors, j'adore Frank Sinatra, effectivement, et je trouve que My Way est une version de Comme d'habitude qui retrace la vie d'un homme au soir de cette vie, qui est particulièrement émouvante, qui veut dire, en fait, je ne regrette rien de ce que j'ai fait, et voilà, je l'ai fait à ma façon. Et je trouve que ça, c'est quelque chose dont j'aimerais bien qu'on puisse dire un jour que ça me caractérisait.
Vous avez encore le temps. Allez, on écoute Frank Sinatra.
Le plus tard possible.
Exactement.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark, my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not.
Voilà Frank Sinatra, le choix de Frédéric Almendros, le procureur du Lot, qui nous reçoit aujourd'hui pour parler de la justice et aussi d'autres choses, une autre chose à laquelle nous allons venir maintenant. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le chien thérapeute » et il y a un magnifique labrador noir sur la première page. « Moi, LOL, labrador et premier chien d'assistance judiciaire ». Vous connaissez Philippe Guéluc ?
Très peu, de réputation, bien sûr.
Alors lui, il a un chat, il fait parler le chat. Et alors vous êtes un peu le Philippe Guéluc de la jante canine, si je comprends bien, parce que vous faites parler le chien dans le livre.
J'ai beaucoup moins d'humour que lui, hélas, pour moi. Et beaucoup moins de talent.
Le livre ne manque pas d'intérêt, au contraire. Alors, il y a des phrases assez vertes sur vos confrères, notamment les gens du siège, donc on ne va pas les reprendre là, parce que ceux qui lisent le livre...
Certains, une toute petite minorité.
une toute petite minorité, mais bon...
Qui restera anonyme, bien entendu.
Qui restera bien sûr anonyme, mais pour quelqu'un qui a un peu fréquenté les prétoires comme moi, je les ai lus avec un immense plaisir, je ne vous le cache pas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chien thérapeute?
Alors, au départ, je l'avais appelé le caninothérapeute, en faisant un parallèle, un clin d'œil avec la calinothérapie. Le caninothérapeute, c'était donc ce chien qui, par les câlins que l'on peut lui apporter, va apaiser les personnes qui se retrouvent prises dans le maelstrom de la justice. Alors ces personnes, bien sûr, c'est d'abord les victimes, en tout cas les personnes qui se disent victimes. Je préfère parler pour ma part de bénéficiaires, parce que la personne sera déclarée victime quand la mise en cause sera déclarée coupable, hein, au sens pénal du terme. Donc je préfère parler de bénéficiaires. Et donc ce chien, cette aide psychologique vivante qui va permettre à ces bénéficiaires tout simplement de traverser le procès pénal le moins mal possible.
Alors vous parlez de Labrador noir d'ailleurs. Il faut qu'il soit noir. Vous avez eu des phrases assez...
Ça c'est LOL qui le dit, c'est pas moi.
C'est le chien, voilà, qui dit que les autres, effectivement, les autres couleurs sont beaucoup moins performantes.
Ce qui est faux dans l'absolu, bien entendu.
Je me doute. Comment vous est venue cette idée? Parce que c'est votre création. Vous avez regardé un peu de l'autre côté de l'Atlantique, je crois. C'est à Seattle, hein, qu'on a lancé cette idée. Bon, très bien, mais comment vous est venue l'idée de l'adapter ici? Et comment vous avez réussi à aller au bout? Parce que j'imagine que ça n'a pas dû être simple que de dire il y a un chien qui va participer à toute l'aventure judiciaire.
Effectivement, ça n'a pas été forcément très simple au départ, mais rapidement... LOL a fédéré, le programme a fédéré. Alors tout simplement, il faut rendre à César ce qui lui appartient. L'idée m'a été soufflée par le colonel Dallier qui commandait le centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie à Gramat.
Voilà, à côté d'ici d'ailleurs.
Oui, tout à fait, dans le département, que j'avais rencontré lorsque j'étais procureur à Aurillac, puisqu'il se trouve que mon épouse était président à Cahors, et elle m'a dit, avec le procureur, donc mon prédécesseur, nous avons été à Gramat, et les chiens de la gendarmerie font un travail formidable, tu devrais y aller. Donc j'ai contacté le colonel Dallier en tant que procureur d'Aurillac, et je lui ai proposé que le tribunal d'Aurillac se rende dans le Lot pour aller voir les chiens de Gramat. Il m'a accueilli à bras ouverts. Nous avons passé une journée là-bas avec plusieurs collègues. Et pendant le repas, il m'est apparu que l'excellence de ce centre devait servir la justice, d'une façon ou d'une autre. Donc j'ai eu l'idée de proposer au colonel Dallier des stages alternatifs aux poursuites pour ce que j'appelle les vieux mineurs, 16-18, et les jeunes majeurs, 18-21, 22-23, qui vont commettre des petits délits, entre guillemets, c'est-à-dire des outrages, des bagarres dans le lycée, des petites consommations de stupéfiants, des tags... Enfin, des délits qui font pas trop de préjudice, qui ne causent pas trop de préjudice. Donc j'ai mis en place un stage alternatif aux poursuites avec donc Gramat, avec le CNIJ, et donc régulièrement le CNIJ amenait 3 Malinois au centre équestre à Aurillac et on faisait une demi-journée de formation de ces mises en cause, jeunes majeurs et vieux mineurs, qui, pendant 3 heures, suivait un cours d'apprentissage du dressage des chiens, à quoi ça sert de respecter la loi, et dernière phase, la troisième heure, pourquoi est-ce que vous êtes là? On débrief sur l'infraction que vous avez commise, et vous voyez, en fonction du respect de la loi, et puis aussi de la vraie violence pure qu'on peut retrouver avec un Malinois, voilà ce qu'on peut obtenir comme résultat. Ça a très très bien fonctionné, à telle enseigne que dès que j'ai été nommé procureur à Cahors, j'ai reproduit le programme sur Cahors. Et à l'occasion d'une de mes visites au CNIJ, le colonel Dallier m'a dit « Mais vous savez, ce serait bien qu'on s'occupe aussi des victimes. » Et je vous avoue que ça m'a fait tilt tout de suite. Donc, il m'a mis en relation avec les fondatrices de la Courthouse Dog Foundation à Seattle, donc dans l'État de Washington, qui sont les premières à avoir créé une fondation déployant des chiens d'assistance judiciaire aux États-Unis. Elles ont commencé en 2012. Aujourd'hui, elles en sont à plus de 250 chiens qui sont déployés dans plus de 35 États. Et ces chiens sont hébergés, c'est l'avantage des États-Unis, chez des gens du FBI, chez des avocats, chez des sociologues, chez des psychologues, voire même chez des juges ou des procureurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'étiquette. Moi, je vous avoue que je vais vous en parler dans quelques instants, mais lorsque j'ai eu un problème d'hébergement pour LOL, je me suis dit, un de plus ou de moins, 4 chiens ou 5 chiens à la maison, je vais le prendre à domicile. Et puis je me suis dit, est-ce que ça ne va pas poser de problème, notamment pour les avocats de la défense, de voir une personne partie civile accompagné du chien du procureur. En termes d'image, même si un chien c'est un chien et qu'il n'y a pas écrit procureur ou chien du procureur sur son front, je pense que ça aurait peut-être un peu coincé. Donc on n'en est pas encore arrivé au même stade que les Américains, qui ont donc déployé autant de chiens parce qu'il y a aussi autant d'hébergeurs. L'hébergement étant un problème, je vous en parlerai tout à l'heure si vous voulez bien. Donc je suis parti à Seattle au mois de septembre 2018 voir la conférence internationale où il y avait des labradors noir, mais pas seulement. Il y avait aussi des labradors sable, il y avait des golden retrievers. Et je vous avoue que de voir tous ces chiens dans une salle de réception américaine, hein, c'est-à-dire un auditorium en fait, hein, puisque aux États-Unis tout est plus grand que chez nous, pendant toute une semaine, une cinquantaine de chiens qui n'ont pas aboyé une seule fois, à part lorsqu'on a fait rentrer deux bassets à ondes pour faire une démonstration de recherche d'odeur, ça a été le seul moment où j'ai entendu quelques jappements. J'ai été assez ébloui par le dressage et par le professionnalisme de ces chiens. Et en rentrant de Seattle, le colonel Dallier m'a annoncé une mauvaise nouvelle, puisque normalement LOL aurait dû être hébergé au CNIJ à Gramat, sauf que la direction générale de la gendarmerie, en septembre 2018, avait d'autres impératifs que la médiation canine. C'était une période trouble pour la République, et donc il fallait se concentrer sur la formation d'autres chiens que les chiens d'assistance judiciaire. Donc je me suis retrouvé avec un chien qui était prêt à l'emploi, LOL, en janvier 2019, et plus d'hébergeur.
Alors, vous l'avez trouvé où, ce chien ?
Alors, le chien, il a été formé par Andy Chien, qui avait déjà commencé à travailler son dressage, parce que le colonel Dallier était en lien avec la fondation Sommer, et c'est donc la fondation Adrienne et Pierre Sommer qui a financé la formation de LOL, qui a coûté 17 000 euros.
Oui, c'est quand même pas rien.
Voilà, donc ça a duré 11 mois. Donc moi, j'ai parlé au colonel Dallier en novembre 2017 de ce que je voulais me lancer dans l'aventure. Et en janvier 2019, LOL était prêt.
Alors comment on dresse un chien ? Parce qu'il est censé accompagner, rassurer, c'est une présence. Il y a un lien d'empathie qui doit se faire entre le bénéficiaire, comme vous l'appelez, le chien. Comment on arrive à obtenir ça d'un chien, aussi intelligent soit-il ?
Alors, je vous propose de poser la question à Florian Auffray, qui a été le formateur de LOL, parce que je ne saurais pas vous répondre de manière précise sur la technicité de sa formation. Ce que je peux vous dire, c'est que LOL a été formé en passant dans plusieurs familles, je crois que c'est 18 familles. Donc, il n'a pas de référent attitré, il n'a pas de maître. Il n'a pas un seul maître, c'est un chien qui a de l'empathie pour tout le monde. C'est ce qui fait aussi sa force. Et ensuite, il y a le dressage, puisqu'il répond aujourd'hui à 52 commandes. Alors, en termes d'agility, il y a mieux, hein, on peut aller beaucoup plus loin. Mais enfin, 52 commandes, c'est quand même déjà quelque chose d'assez conséquent. Et puis, il y a quand même quelques commandes qui sont essentielles pour un chien d'assistant du tribunal. C'est ne pas aboyer, ne pas faire ses besoins dans la salle d'audience ou dans un cabinet, même si c'est un cabinet d'instruction. Mmh. Ce sont des basiques comme cela. C'est se lever quand la personne qui tient la laisse se lève. C'est se coucher quand la personne est statique. C'est répondre à des commandes telles que cool, c'est-à-dire se coucher carrément sur un enfant qui est assis pour faire comme un cocon autour de lui. Voilà, ce sont des commandes pour lesquelles ce chien a été dressé. Et qui ont pris un peu de temps, effectivement, 11 mois.
Ce qui veut dire que quand le chien, entre guillemets, travaille, il n'est pas seul, il est accompagné par un tiers.
Alors, lorsque LOL travaille aujourd'hui, je vais en revenir à ce que je voulais vous indiquer tout à l'heure, quand donc le CNIJ m'a dit qu'il ne pouvait pas héberger LOL, c'est ma fille cadette qui m'a proposé de donner une idée aux pompiers en leur disant « est-ce que vous accepteriez d'héberger LOL ?» Et ensuite, avec le préfet et le président du conseil départemental qui sont les autorités de tutelle du SDIS, du service départemental d'incendie secours, nous sommes mis d'accord pour que les pompiers hébergent LOL à l'année, moyennant une rétribution, non seulement pour l'hébergement, mais surtout pour l'accompagnement de LOL aux actes de procédure. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 11 pompiers à la caserne de Cahors qui sont formés par Andy Chien pour s'occuper de LOL. Parce que moi, mon premier souci, c'était d'avoir des gens suffisamment vigilants et formés pour lire le chien, pour s'assurer que le chien ne souffrait pas. Si nous avions constaté que le chien souffrait d'une façon ou d'une autre, parce qu'un enfant était trop vif avec lui, parce que une position était inconfortable, parce que tout simplement il aurait mal perçu, mal vécu ce qu'on lui demandait de faire, je pense que j'aurais abandonné le programme. Ça n'a pas été le cas, heureusement, mais c'était la première des conditions. Donc il fallait des pompiers référents qui soient formés pour lire le chien. Donc dans un premier temps, il y en a eu 7. Aujourd'hui, il y en a 11. Donc, parce que vous savez qu'à la caserne, c'est les 3-8. Les pompiers tournent, donc il faut toujours des pompiers référents qui soient là pour s'occuper de LOL et puis éventuellement pour répondre aux sollicitations de la justice.
Et LOL, il vit chez un pompier ? Il vit où ?
Absolument pas.
Il est complètement le pauvre coupé de tout, ce chien.
Absolument pas. Il est au contraire tout le temps entouré, puisqu'il vit à la caserne, route de Toulouse. Et il a sa pièce à lui, il a sa brosse à dents. Et il est tout le temps avec des pompiers. Et tout le monde s'occupe de lui, tout le monde va le promener. Pas trop, parce qu'il lui faut pas trop d'exercice. C'est pas, encore une fois, c'est pas de l'agility. C'est pas un chien de recherche de stupéfiants ou d'explosifs. C'est un chien d'assistance judiciaire, donc il faut pas trop le stimuler. De l'autre côté, il faut pas trop qu'il prenne de poids non plus. Donc il y a un juste milieu à trouver. Tout cela, ça a été expliqué aux pompiers par le formateur, monsieur Auffray, dans des chiens. Et donc les formateurs, aujourd'hui, s'occupent de l'OL au quotidien et donc l'accompagnent aux actes de procédure lorsqu'il y a besoin.
Alors comment ça se passe quand on lit le livre, il y a des chapitres. Il y a un chapitre là, moi, qui m'a beaucoup touché. C'est sa première intervention, celui qui s'appelle « Ma première fois ». Quand il raconte, j'ai trouvé ce chapitre m'a marqué. Il est très sensible. C'est souvent quand même des enfants victimes d'abus sexuels ou, dans les exemples que vous donnez, des personnes âgées, donc des gens extrêmement... des bénéficiaires, comme vous les appelez, mais moi j'appellerais ça des
vulnérables.
Victimes, mais très vulnérables, oui.
Mais généralement, une personne qui se dit victime, elle est par définition vulnérable. Parce que quand même, souvent, il n'y a pas de fumée sans feu.
Oui,
hélas,
vrai, bon.
Hélas. Mmh. On a quand même très peu de relax ou d'acquittement, quand même, très peu. Donc malheureusement, souvent, quand les gens se plaignent d'avoir été victime d'une infraction pénale, il y a un fond de vérité. Donc toutes les victimes sont vulnérables. Effectivement, depuis que LOL a commencé à intervenir, si nous avons fait bénéficier de LOL à des personnes âgées de 3 à 90 ans, il y a eu beaucoup d'enfants, de jeunes enfants mais d'adolescents aussi, voire même de grands adolescents, et trois couples de personnes âgées, parce que ça s'est trouvé que ces personnes ont été agressées au moment où on commençait l'expérimentation. Il y a aussi eu des personnes entre les deux qui ont bénéficié de LOL, notamment des femmes qui se disaient victimes de violences conjugales. Et je me souviens, parce que vous parlez effectivement de cette petite fille, la première fois, le 29 mars à Figeac, qui, la première fois, avait refusé quand même de descendre de la voiture de sa mère, hein, et qui, lorsqu'elle a vu LOL, est descendue spontanément, a immédiatement été mise en contact avec le chien, et a pu être entendue pendant 37 minutes. Mais on a aussi le cas de cette jeune femme qui était victime de violences conjugales, je dis qui était, puisque le conjoint a été condamné, et qui n'aurait pas pu affronter, au sens propre du terme, une confrontation sans LOL. Et d'ailleurs, à la sortie de la confrontation, elle a dit que sans le chien, elle n'aurait pas pu assister à la confrontation, et que LOL ne la jugeait pas. Et c'est ça tout l'intérêt du chien d'assistance judiciaire, des chiens d'assistance judiciaire, c'est que c'est un regard non humain, mais qui humanise le procès. Vous, avocat, moi, magistrat, procureur, juge, expert, huissier d'audience, greffier, gendarme, policier, association d'aide aux victimes, qui que nous soyons, quand on a une personne qui se dit victime devant nous, qui est donc, je crois, par définition fragilisée, nous la regardons avec un regard d'humain. Donc on porte un jugement, tous. D'ailleurs, on porte tous un jugement sur tout le monde. Hein, Sartre disait l'enfer, c'est les autres. Le chien, non. On porte pas de jugement, le chien. En tout cas, on le perçoit pas.
Qu'est-ce qui se passe entre le bénéficiaire et le chien pour que sa présence soit à ce point rassurante et qu'elle libère la parole?
Alors je crois que si LOL ne l'a pas dit dans le livre, c'est que le rédacteur du livre ne le savait pas. C'est très compliqué comme question. Enfin, la réponse serait totalement aléatoire. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Il y a une alchimie qui se crée.
Parce que le chien, il est là. Il ne juge pas. Il dit rien par définition parce que c'est un chien. Comment cette présence finalement muette et arrive à sécuriser?
Mais c'est peut-être justement parce que c'est un non-dit. C'est peut-être le non-dit qui aide. Le non-dit et puis le fait que le contact avec l'animal apaise par définition. Vous savez, il y a la caninothérapie, mais il y a aussi la ronronthérapie. Je ne l'ai pas inventé. On sait que dans certains tribunaux, il y a des greffiers au sens félin du terme, qui rôde, et quand les chats sont dans les couloirs, notamment d'un tribunal d'application des peines, ou d'un cabinet d'instruction, ou d'un cabinet de juge d'enfants, les gens sont beaucoup plus apaisés dans les salles d'attente. L'équithérapie fonctionne également.
Oui, ça fonctionne.
Il y a beaucoup d'équithérapie.
Le cheval dans le cabinet du juge d'instruction, c'est un peu délicat.
Tout à fait. Ça dépend de la taille du cabinet, mais généralement, ils ne sont pas très grands. Pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur les moyens de la justice. Enfin, c'est plutôt sur l'architecture des bâtiments. Non, mais plus sérieusement, le contact avec l'animal apaise. Enfin, je sais, tout le monde n'a pas eu d'animal chez lui, mais moi qui ai toujours vécu avec des chiens, voire avec des chats, hein, puisque jusqu'à récemment j'en avais plus d'une vingtaine, on a toujours un bien-être quand on caresse un animal, que ce soit un chien ou un chat, ou un cheval, ou un âne. Je crois que c'est cette connivence du non-dit, de l'absence de jugement que nous renvoie l'animal qui nous aide. Après, pourquoi un chien et pas un chat? C'est ce que m'avait posé comme question un psychiatre lorsque nous avons fait le colloque au ministère de la Justice. J'ai répondu très simplement, essayez de caresser un chat qui n'a pas envie.
ça peut mal se terminer, effectivement.
Voilà.
Alors, LOL est arrivé, LOL est allé chez les enquêteurs, policiers, gendarmes, LOL est allé chez le juge d'instruction, est allé en cour d'assises. Comment tous ces gens ont accepté, comment ils ont fait pour accepter? Ça a dû être compliqué pour vous, vous avez dû plaider votre cause. Et ce qu'ils se sont dit, Frédéric Almendros, il est un peu fou.
Non, ça ne s'est pas dû. Non. Ça ne s'est pas dit en tout cas. En tout cas, ça je ne l'ai pas entendu. Dit, voilà. En tout cas, je ne l'ai pas entendu. Mais encore une fois, ce n'est pas moi, c'est une œuvre collégiale. Je ne suis pas tout seul dans ce bateau. Sans France Victime, sans Andy Chien, sans la Fondation Sonneur, sans le colonel Dallier, sans la députée Tienia qui nous a aussi beaucoup aidés, sans le barreau de Cahors, mais également le barreau d'Agen, sans les chefs de juridiction, parce qu'il y a le procureur de Cahors, mais il y a également les autres chefs de juridiction, il y a le président, il y a le président d'Agen, il y a le procureur d'Agen, il y a les chefs de cour qui n'ont pas opposé un veto, qui nous ont donc aidés aussi à réaliser tout ça.
Vous posez un veto à un chien, ce serait...
Oui, ce serait un peu cabot. Sans toutes ces personnes, ça ne se serait pas fait. Donc après, bien sûr, il a fallu convaincre de l'utilité du chien d'assistance. Ça a été plus ou moins facile vis-à-vis de certaines personnes. Il a fallu effectivement convaincre, parce qu'il y avait des catho-sceptiques. Je dis catho-sceptique, je me permets de le citer avec son autorisation. Je pense au bâtonnier Faugère, qui, lorsque je lui ai parlé, m'a dit « ouais, bof », et qui a été le premier à défendre le programme lorsque Nicole Belloubet, ministre de la Justice, est venue à Cahors, en reconnaissant qu'il s'était trompé.
Qu'il y avait Nicole Belloubet
ou... Non, c'est parce qu'il avait été l'avocat du premier couple de personnes âgées qui ont bénéficié de LOL, et là, il s'est rendu compte vraiment que c'était magique.
Alors ça, en effet, sur le chien, parce que le chien parle, hein, donc il dit « je ne perds pas de poids, je ne suis pas neurasthénique, par contre, je dois admettre qu'après chaque audition, je fais des pellicules durant deux jours ». Ça veut dire que, quelque part, le chien sait ce qui se passe, qu'il a une perception.
Ah, mais il absorbe, tout à fait,
d'ailleurs,
il absorbe.
Voilà un très gros chien qui arrive, se jette
il absorbe.
Moi.
C'est effectivement, il fait des pellicules après chaque audition.
Donc ça veut dire que le chien a une quelque part, il a une conscience de ce qui se passe.
Ah, je pense oui qu'il perçoit, les gens. Vous savez, une petite fille qui avait été entendue en présence de LOL est revenue à la gendarmerie pour une expertise. Elle est descendue de voiture avec sa mère qui a appelé LOL. LOL n'a pas calculé du tout la mère. Il est allé se diriger directement vers la bénéficiaire. Pourquoi? Est-ce que c'est un hasard? Je ne le crois pas, personnellement. Je pense que ce chien-là, et certainement les chiens qui sont formés comme lui à sa suite, disposent d'une qualité supplémentaire qui lui permet de percevoir qui a besoin de lui.
Quand vous dites ce chien-là, comment vous l'avez choisi? Vous avez dit le premier labrador qui vient,
alors,
ce sera lui?
Moi, je ne l'ai pas choisi. Il a été sélectionné par Andy Chien. Alors, les chiens d'assistance en général, mais plus particulièrement les chiens d'assistance judiciaire, sont repérés par les formateurs. Donc, je vous parlais de Florian Onfray, qui est quand même le formateur référent de LOL. LOL, il a été choisi lorsqu'il était tout petit, mais bien entendu, le cursus est de plus en plus évolué aujourd'hui, puisque dorénavant, on va sélectionner les parents du chien, on va essayer de voir si le petit est un mâle alpha ou pas un mâle alpha, s'il est plutôt craintif, s'il est plutôt docile à la caresse. Voilà, il y a plusieurs critères qui vont faire que le chien va être choisi ab initio, et ensuite, il y a la formation. On va voir au cours de la formation, des premières semaines de formation, si le chien réagit bien à la formation ou pas.
Est-ce qu'il ne faudrait pas fournir aussi des chiens aux magistrats? Vous écrivez, la présidence, enfin elle écrit, LOL écrit, hein, la présidente n'a pas compris la problématique de Madame L. Et puis un peu plus loin, je l'ai encadré, c'est curieux chez certains juges ce besoin de tout déshumaniser. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas que le juge s'humanise au contact de son LOL à lui?
Alors moi, ça c'était une petite... Une petite griffe, on va dire.
Oui, un coup de griffe.
Mais
un chien,
non, très sérieusement, je crois que les chiens d'assistance judiciaire ont vraiment un grand avenir. Parce qu'ils apportent un bien-être aux victimes, mais ils apportent un bien-être aux gens. Que vous soyez victime, mise en cause, je vais peut-être choquer, mais il y a des mises en cause qui pourront bénéficier de chiens d'assistance, je le crois. Je le crois vraiment utile pour la justice, pour la sérénité, pour l'apaisement. Pas pour faire avouer à quelqu'un un fait qu'il ne voudrait pas avouer. Encore une fois, j'insiste vraiment sur le fait que le chien d'assistance judiciaire n'est pas un élément de preuve. Mais je crois que ces chiens vont aussi être utiles au personnel de justice. Vous savez, quand j'étais à Seattle, il y a quelque chose qui m'a marqué. Je ne connaissais pas, même si je le savais, je ne l'avais jamais verbalisé. C'est un phénomène psychique qui s'appelle l'usure de compassion. J'en parle dans le livre.
Oui.
Cette usure de compassion, c'est le fait pour certaines personnes de superposer des couches d'horreur durant toute leur carrière, qu'ils soient magistrats, greffiers, parce qu'on les oublie souvent, les greffiers. Mais les greffiers, à l'audience, ils entendent les mêmes horreurs que les magistrats. Et eux, ils n'ont pas la parole pour pouvoir extérioriser ce qu'ils ressentent. Les greffiers, les avocats, qui aussi entendent parfois dans leur cabinet des choses atroces qu'ils ne vont pas pouvoir révéler, qu'ils vont devoir garder. Hein, on parlait tout à l'heure de liturgie, qu'ils vont peut-être garder comme une confession parce que c'est leur devoir d'avocat. Je pense que tous ces gens, les policiers, les gendarmes, pourrait aussi bénéficier peut-être de l'assistance des chiens.
Voilà, on va vider la SPA là avec ça.
Ben, si on vide la SPA, moi ça ne me gêne pas, ça veut dire qu'il n'y a plus d'animaux abandonnés. Donc, mais pour être sérieux, le chien d'assistance fait un bien énorme aux pompiers, qui aussi au quotidien voient des horreurs.
Tout le monde en voit des horreurs au quotidien. Si vous êtes médecin, si vous allez dans un hôpital. Mais oui, il y a d'ailleurs des chiens qui vont dans les hôpitaux, qui vont voir les malades, effectivement, et qui, quelque part, aussi les rassurent, leur apportent la chaleur humaine qui manque peut-être.
Bien sûr, mais moi, je n'ai pas compétence dans les hôpitaux, en tout cas, pas pour ce registre-là.
Ça pourra peut-être venir. Vous allez peut-être être consulté par le CHU de Toulouse en disant est-ce qu'on peut monter un programme ?
Mais peut-être on pourrait monter un programme aussi d'assistance, parce que, vous savez, c'est à peine. À peine humoristique ce qu'on est en train de dire, parce que moi je me suis posé la question, des unités médico-légales qui reçoivent notamment des jeunes filles mineures qui se disent victimes de viol, et avec la question de l'hygiène. Est-ce qu'un chien d'assistance peut entrer dans un cabinet médical, a fortiori dans un hôpital, pour accompagner un bénéficiaire qui se dit victime d'une infraction pénale ?
Ils le font dans certains hôpitaux. Hein. On a vu des reportages là-dessus où il y a des chiens qui vont visiter les patients.
Mais
ils attendent devant la porte. Ils sont aussi parfaitement dressés. Donc pourquoi,
oui,
pas,
oui.
Pourquoi
c'est...
pas.
C'est pour ça que je vous dis que la question est tout à fait ouverte.
Alors tout à l'heure, on a dit que LOL avait coûté son dressage 17 000 euros, ce qui est quand même déjà une somme ronde. Il faut l'entretenir au quotidien. On a dit aussi que la justice était pauvre et qu'elle manquait de moyens. Est-ce que ce n'est pas justement un frein au développement de ce programme qui paraît quand même très très prometteur et intéressant ?
Aujourd'hui, on a une difficulté. Les premières années de fonctionnement de LOL ont été financées par ce qu'on appelle les CDAD, les conseils départementaux d'accès aux droits. Lorsque nous avons interrogé le ministère de la Justice sur la ligne budgétaire, il nous a été indiqué que la ligne budgétaire n'était pas la bonne puisque les CDAD font de l'accès aux droits et non de l'aide aux victimes. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus de moyens de financer le programme. En tout cas, nous n'avons plus de moyens judiciaires, ministériels, de financer le programme. D'où le fait que moi, j'ai décidé d'attribuer une partie, et j'espère la plus grande partie possible, des ventes à l'association d'aide aux victimes lotoises, qui, elle, rétribue les pompiers. Nous avons estimé, avec Mme Mesté, qui est la référente de l'association, et Moustapha Yasfi, qui est le bâtonnier de Cahors, mais également le président de l'association France Victimes 46, qu'il nous fallait à peu près entre 5 et 8 000 euros par an pour continuer uniquement sur notre lancée. Uniquement sur notre lancée. C'est-à-dire à peu près 30 à 35 personnes bénéficiaires de LOL par an. C'est pas si énorme que ça. Ça fait une personne toutes les deux semaines, si on fait une moyenne. Et vous avez compris en début de notre entretien que je ne suis pas forcément tout à fait d'accord avec les chiffres toujours. Mais enfin, faisons une pondération, c'est tout à fait raisonnable. Vous voyez, cette semaine, par exemple, il va intervenir 3 fois. Demain, jeudi, vendredi. LOL intervient 3 fois cette semaine. Donc, si on fait une moyenne basse, on a besoin de 5 à 8 000 euros par an. Donc aujourd'hui, avec le bâtonnier notamment, nous sommes en train d'essayer de chercher du mécénat. C'est la triste réalité, je le dis parce que c'est vrai. Et j'espère que les autorités à qui j'ai adressé un exemplaire du livre seront réceptives et pourront nous apporter leur aide. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, bien entendu.
Non, il faut croiser les doigts, mais effectivement, ça va rapidement peut-être limiter l'expérience. Parce qu'il faut aussi un pompier qui accompagne LOL sur chaque intervention. Ça veut dire qu'il y a un homme ou une femme de la brigade de pompiers de Cahors qui, pendant ce temps, ne fait pas le pompier.
Alors, ne fait pas le pompier, vous interrogerez éventuellement le colonel Taché-Descombes, qui ne sera peut-être pas d'accord avec ça, parce que je crois qu'ils y ont trouvé aussi, eux, une nouvelle forme d'activité. LOL est devenu le chien des pompiers. En fait, d'un mal, nous avons fait un bien. C'est-à-dire que le chien qui devait être le chien des gendarmes est devenu le chien des pompiers. Notamment pour les enfants, ça n'a pas la même symbolique. Et je vous assure que les pompiers le vivent aussi comme ça.
Ça a une logique, d'ailleurs, qu'ils soient chez les pompiers. Ils ont une devise, je ne sais plus, sauver ou périr.
Oui, sauver ou périr.
Quelque part, ils viennent en aide aux gens. C'est leur quotidien.
Absolument.
Donc, pourquoi il n'y aurait pas une ligne budgétaire chez les pompiers, mais qui dépendent du département, ici? Parce que 8 000 euros, ce n'est pas non plus... quand on voit certains... Alors là, vous allez me répondre qu'effectivement, vous n'êtes pas... mais quand on voit certaines gabegies, on va dire, on ne va pas citer ici d'exemple, mais on pourrait... 8 000 euros, c'est peanuts.
8 000 euros, c'est ce dont nous avons besoin. Donc, il faut qu'on les trouve. Et on les trouvera. Et j'espère que les ventes du livre y contribueront.
Oui, mais le livre, bon, il se vendra, certes, mais pas assez pour renouveler. Donc, il va falloir trouver des solutions pérennes.
On écrira un autre livre.
Et voilà. Ce serait effectivement une bonne solution. Alors, quand vous ne faites pas le procureur, quand vous ne vous occupez pas de ce très intéressant, très original et à mon avis, très prometteur programme, qu'est-ce que vous faites là? Vous occupez de votre jardin, moi, ils disent. Vos occupations sociales, c'est le jardin, les animaux?
Ben, j'ai de quoi déjà m'occuper avec mes animaux, effectivement, puisque 4 chiens, 2 ânes et...
Les ânes sont à vous aussi, parce
chats,
que
oui,
j'avais
oui.
vu des ânes.
Oui, oui, ils sont là-bas.
Oui.
Et puis, effectivement, je cultive mon jardin, hein, comme le dit si bien Voltaire. Donc,
Mais vous ne faites pas que ça, vous peignez, j'ai vu.
Oui, je barbouille. Je barbouille.
Oui, mais il y a des barbouilleurs qui font des fortunes.
Hein. Oui, mais j'espère
voilà, vous pour
un jour,
par exemple,
pour le programme, qu'on pourra vendre un ou deux tableaux, mais pour l'instant, je barbouille.
Bon, fait peinture à l'huile, acrylique?
Oui, surtout peinture à l'huile, acrylique, un peu d'aquarelle quand j'étais plus jeune. Mais...
Sculpture aussi?
Un peu de upcycling, pour être exact.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce nom barbare?
Le upcycling, c'est le fait de prendre de l'ancien pour faire du nouveau avec. C'est-à-dire que vous prenez, par exemple, comme j'ai dans mon bureau, un robinet que vous allez souder sur un disque de frein de camion et vous appelez ça « Mon électricien a mis mon plombier au courant, résultat 10 ans de placard ». Voilà, c'est le titre de l'œuvre, entre guillemets. L'objet, on va dire.
Vous jouez de la musique, c'est du piano, vous cuisinez, vous êtes un homme parfait finalement. Alors, c'est pas une proposition, je vous rassure. Mais...
Ma grand-mère me disait de moi toujours « Bon à rien, mauvais à tout ». Je pense que c'est une bonne définition.
Vous lisez aussi?
Oui.
Beaucoup. Alors, on peut parler de livres. Je finis toujours par le livre, mais là, puisque le mot me vient à la bouche, parlons. Je vous avais dit, choisissez un livre. Vous en avez retenu deux, Napoléon de Max Gallo, et puis Le Parfum de Suskind, que j'aime beaucoup, qui est un livre déjà ancien, mais absolument fabuleux, avec une écriture. Suskind est allemand, je crois. Hein. Une écriture un peu métallique, un peu allemande, assez casque à pointe, comme l'on dirait, mais c'est un fabuleux livre.
Le film est pas mal aussi, il a été assez fidèle au livre. Mais effectivement, ce livre, il y a une histoire assez particulière. D'abord, moi, j'ai un odorat développé presque de manière gênante parfois. Donc,
vous allez faire concurrence à LOL, alors
Non, pas quand même.
Vous ne sentez pas les stupes, quand même?
Non, ça dépend des fois. Des fois, ça sent fort. mais effectivement, j'ai retrouvé dans ce livre quelques... inconvénients à avoir un odorat un peu développé. Et puis, c'est un livre que j'ai lu le matin du grand oral de l'école de la magistrature, puisque nous avions l'obligation de présenter un livre si on nous posait la question. Et donc, je l'ai lu en 3 heures, en fait, dans mon bain, le matin du grand oral de l'école de la magistrature.
Le bain, c'est pour vous déstresser?
Le bain, c'était pour me déstresser, et le livre m'a bien déstressé aussi. Ouais. Et effectivement, je l'ai trouvé super. Parce que,
c'est très original comme histoire.
Très bien écrit, et puis très... Très juste, très... C'est presque un livre qui sent, quoi. Non, mais c'est presque un livre qui a une odeur.
Oui,
et puis le Napoléon de Max Gallo, bon, c'est... Je trouve ça magnifique de... Le talent de description qui fait qu'ensuite, quand on voit la série avec Christian Clavier, on revoit les images qu'on avait imaginées en lisant le livre. Ça, je trouve que c'est une sacrée prouesse. Les écrivains qui arrivent à vous faire voir ce qu'ils veulent vous faire voir, exactement, avec les couleurs, avec presque les odeurs aussi, avec les échos derrière, avec... Voilà, c'est quelque chose qui me séduit beaucoup. Que je n'arrive pas à faire moi-même, parce que je me suis un petit peu essayé à l'écriture.
Ça vient, c'est un métier, ça vient, il faut s'entraîner, c'est comme tout, hein, et ça, progressivement on s'améliore. Moi qui ai commis quelques livres, chaque fois que j'ai un crayon, on me dit les meilleurs, c'est vraiment le meilleur que tu as fait. Donc, bon, je sais que j'ai une
grosse,
pourvu que ça dure, et puis je sais que j'ai une grosse marge de progression devant moi. Moi, je vais vous parler, alors je vous cite un livre de quelqu'un que vous connaissez pour rester dans le thème, hein, Mémoire d'un juge trop indépendant, vous savez de qui c'est ? Ça vient de sortir.
Non.
Chez Taillandier, c'est Renaud Van Rydbeck qui a pris la retraite et qui a apparemment...
Ah oui, j'en ai entendu parler, effectivement.
C'est un livre extrêmement intéressant. Il a eu de très jolis dossiers. Il peut aujourd'hui parler tout avec certainement de la réserve, mais ouais. Il a le recul nécessaire pour parler. Bon, également un film, L'ivresse du pouvoir, 2006, Claude Chabrol avec Hubert.
Pas vu,
mais intéressant.
Par contre, en livre, vous me faites penser au Devoir de déplaire de Montgolfier.
Oui, il y a
ça aussi. Très bien aussi.
Oui. Bah,
Montgolfier, moi, j'ai bien aimé, en tout cas.
Montgolfier était un magistrat du parquet, procureur, il a fini procureur à Nice.
Procureur général à Bourges.
Procureur général à Bourges, oui. Enfin, à Nice, il s'est fait un nom.
Il est resté très longtemps à Nice.
Il s'est fait un nom, il a un peu nettoyé les écuries d'Augias, semblerait-il. Il y avait de quoi faire, peut-être encore d'ailleurs. Bon, puisque vous aimez la cuisine, est-ce que vous connaissez Nicolas d'Estienne d'Orves ?
De nom, mais...
Bon, 74, écrivain, critique d'opéra. Il a publié une trentaine de livres. Et là, il a écrit un livre qui s'appelle « Le petit éloge de la gourmandise » aux éditions François Bourin, que je suis en train de lire, donc je ne vous dirai pas tout. Mais globalement, oui, voilà, c'est un cabinet de curiosité gustative chez ce garçon. Alors, il vous parle... D'abord, il y a sa mémoire mémorielle, ses grands-mères, les plats, etc. Par de souvenirs d'enfance... Vous avez des odes à l'andouillette à côté des bonbons Haribo. Mmh. Vous avez la tête de veau et les chocolats Kinder. Vous avez... Alors, champagne, il n'aime pas. Lui, il préfère le Gigondas.
Ça se défend.
Ça se défend, oui, je pense aussi. Et puis, il vous parle des repas qu'il a faits dans des confréries diverses et variées. Et même chez McDonald's, il vous parle de McDonald's parce qu'il a une prédilection pour un certain plat de McDonald's. Enfin, je vous le recommande. C'est un tout petit livre. Il se lit très vite. C'est des chapitres très court, c'est jouissif. Donc je vous le rappelle, Petit éloge de la gourmandise, Nicolas d'Étienne d'Orves, aux éditions François Bourin. Voilà, alors, je pose toujours trois questions, je vous les ai posées. Une œuvre d'art qui vous aurait marqué, qui vous a... vous m'avez dit garde à vue, bon, pour comprendre un peu pourquoi, il y a un petit...
Non, c'est pour la performance d'acteur.
Voilà, c'est vrai.
C'est pour la performance de huis clos... extrêmement pesant. Et puis bon, Lino qui est... Bon, Lino, c'est Lino. Hein. Bon, vous savez, dans mon bureau, j'ai un portrait que j'ai modestement peint de Lino Ventura qui est grimé en Jean Valjean, miséreux, qui est en guenille avec les cheveux blancs, la barbe hirsute. Et j'ai peint ce portrait parce qu'il se trouve que le passage dans lequel Jean Valjean va se dénoncer au tribunal d'Arras dans Les Misérables de Robert Hossein a été tourné dans la salle d'audience du tribunal de Cahors.
Ah bon ?
Tout à fait. Donc bon, Lino parce que c'est Lino, et puis Michel Serrault parce que bon, voilà, parce que c'est Serrault. C'est tout bête ce que je dis, mais un Guy Marchand qui est exceptionnel, Romy Schneider, enfin bon, j'adore ce film.
Vous êtes très cinéphile ?
Je suis très cinéphile, oui.
Oui, je le sens.
Oui, oui.
Itinéraire d'un enfant gâté, toujours pour rester dans le film avec Belmondo.
Ben, c'est comme My Way, quoi. On la boucle bouclée.
Belmondo, c'est un acteur qui vaut...
Ah, c'est mon acteur préféré.
Oui, je crois que...
Comme, je pense, celui de beaucoup de personnes.
Voilà, ouais. Un moment particulier qui vous a marqué, une journée décisive dans votre vie
Je vous ai répondu, hein, toutes les journées et toutes les personnes qu'on rencontre sont décisives, je crois, parce qu'on s'entrecroise tous.
Il n'y en a pas plus que d'autres qui vous ont marqué
Si, mais des choses personnelles.
Oui. Et puis la personne qui vous a inspiré, donc vous êtes très romantique, vous m'avez dit mon épouse.
C'est vrai qu'elle m'inspire souvent. Elle m'expire aussi des fois. Parce que c'est la vie de couple, des fois on n'est pas d'accord, surtout quand on est magistrat tous les deux.
Oui.
Donc des fois ça expire
vous
fort.
Vous n'êtes pas forcément du même côté, entre guillemets, côté
si,
bien sûr,
si,
le,
si, si,
le
non,
siège,
non.
Le parquet.
Je ne suis pas d'accord avec ça, non. Je suis pas d'accord
vous
avec
êtes magistrat avant tout.
Tout à fait. Tout à fait, on concourt à l'intérêt des gens. Et ça, souvent, on le perd un peu au cours du chemin. On travaille pour les gens, on travaille pour les gens.
Vous les aimez, les gens ?
Ben, il faut bien, hein, on n'a pas le choix, on vit ensemble. Hein. Sinon, il faut vivre sur une île déserte, sans chien, sans chat, sans âne.
Ça serait trop dur, on ne pourrait pas. Votre épouse, qui a été présidente dans différents lieux, qui est, je crois, aujourd'hui plutôt sur Nîmes. Le sud-est, hein, voilà, sur Nîmes, mais elle a voyagé un peu comme tous. Vous voyagez beaucoup. Est-ce que vous allez voyager bientôt ? Ça fait 4 ans à Cahors, c'est long ?
Ça ne fait pas encore 4 ans. Soyons précis. J'aime bien que les chiffres, quand on les expose, soient précis. Ça fera 4 ans, effectivement, en septembre. Non, c'est pas long par rapport au programme qu'on a mis en place. Je vais certainement manquer de temps, quelle que soit ma destinée professionnelle. Après, bien entendu, à un moment donné, il faut aussi changer. C'est ce que je trouve très enrichissant dans notre métier. C'est de pouvoir et de savoir partir aussi. C'est jamais bon de rester trop longtemps, à mon sens, mais c'est ma conception. Moi, d'autres collègues auront peut-être une conception différente. Mais pour moi, j'ai besoin de partir. Alors j'ai fait l'outre-mer, hein, la Réunion, la Corse, les Antilles. On est revenu se poser dans le sud-ouest. Moi, je suis natif de Tarbes. Mon épouse est native de Paris. Donc effectivement, je vous avoue que de temps en temps, le 3 mai au matin, quand il faut mettre une petite laine, je caresse l'espoir de repartir outre-mer. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de notre métier.
Oui, alors ça, c'est ce que vous dites, vous, votre épouse peut-être aussi. Peut-être vos enfants n'y font la même chose. Moi, je suis fils de fonctionnaire, j'ai fait le Tour de France. Je peux vous dire que ça a été quand même parfois très, très dur pour moi d'abandonner la famille, les grands-parents, les amis, les copains qu'on s'était fait tous les 3-4 ans, se retrouver ailleurs autrement. Mmh, mmh. C'est pas toujours simple à vivre.
Oui, il y a des ruptures plus difficiles que d'autres, notamment pour les enfants, qu'on ne perçoit pas forcément.
Surtout quand on grimpe dans les âges.
Oui, mais quand on grimpe dans les âges ou quand on est vraiment petit, les ruptures ne sont pas forcément aussi faciles à décrypter que ça pour les adultes. Je me rappelle de ma fille cadette qui, lorsqu'on est parti de Bastia, a mis des coups de pied à son institutrice en lui disant « tu m'abandonnes ».
Ah oui.
Vous voyez ? Et puis on est parti pour les Antilles, où elle s'est faite rabrouer par certains petits copains de l'école, à qui elle disait « mais non, mais moi je suis comme vous, je suis créole, je suis dans la Réunion », et qui lui faisait comprendre qu'elle était persona non grata. Elle en a beaucoup souffert. Ça, malheureusement, on le vit après l'expérience, c'est un chemin qui n'éclaire...
C'est
une lanterne qui n'éclaire que des chemins déjà parcourus, je crois. Voilà, c'est
une lanterne que l'on porte dans le dos.
Selon les versions.
Voilà, on le prête même à un Chinois qui aurait dit ça. Enfin, on prête beaucoup de choses aux Chinois, même le Covid, donc là, on n'a peut-être pas tort. Merci Frédéric Almendros.
Merci à vous.
D'avoir passé cette heure avec nous. Alors je rappelle, Le Chien Thérapeute aux éditions Favre, qui sont des éditions, si je crois bien, suisses, qui pourraient être un peu liées avec elle à travers une autre maison d'édition qui s'appelle Le Diable Vauvert, que vous connaissez peut-être et que j'ai eu le plaisir de créer il y a 22 ans. Voilà. Merci de ce moment. Et, Le Chien Thérapeute, on en reparlera peut-être. Et puis, vous avez peut-être une adresse s'il y a des gens qui ont envie de faire des dons.
Il faut s'adresser à l'association France Victime 46, c'est le plus simple.
France Victime 46, présidée par un bâtonnier
fabuleux. En exercice.
Voilà, c'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne avec à la technique et au montage Yadis Boudin, une émission que vous pourrez retrouver en podcast, bien sûr, sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous. Adéo.
Merci.